Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons poursuivre, nous, en commençant par la discussion que vous avez entamée de belle façon avec mon collègue Paul Arcan, où effectivement, il vous a demandé votre avis sur la statue de John A. McDonald qui a été, vous l'avez vu, plus que déboudonnée. Là, on a carrément fait rouler la tête du premier ministre du Canada. Samedi, ça se passait dans le cadre d'une manifestation sur un sujet beaucoup plus large qui prend de l'ampleur. C'est-à-dire le fait qu'on veuille réduire un peu partout, surtout aux États-Unis, mais ça vient ici aussi, réduire le budget de la police. Alors, il y avait cette manif samedi, et là, ben, ce mouvement de réappropriation de l'espace public hein, qui, au fil des dernières années, a amené J.A. McDonald à se faire peinturer en rouge, bien là, samedi, ça a été carrément, on fait tomber sa tête. Est-ce que... Bon, évidemment, tout le monde se plaint du fait que ce soit un acte de vandalisme. Quand je dis tout le monde, c'est évidemment les porte-paroles officielles de la Ville de Montréal. La mairesse a dit qu'on ne pouvait pas tolérer ce genre d'acte de vandalisme, sans préciser si elle allait remettre la statue ou non. Évidemment, tous ceux qui doivent faire attention à ce qu'ils disent que, évidemment, on ne peut pas tolérer ce genre d'acte-là, qui est de la violence. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Je veux vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on doit ramener la statue de John A. McDonald à Montréal? En tout cas, en Alberta, le premier ministre a dit que lui, il serait bien content de l'installer chez lui. Tu sais, dans la catégorie, mets-toi donc tes affaires, puis peut-être que tu peux te garder une petite gêne avant de dire quelque chose comme ça. Sincèrement. Alors, je veux vous entendre là-dessus. 514-790-9850 de l'extérieur de Montréal, un peu partout au Québec. Vous pouvez nous joindre et participer à cette discussion en faisant le 1-866-790-9850. Moi, j'aimerais qu'on remette tout ça en contexte ce matin, qu'on nous explique. C'est pas tout le monde qui sait vraiment qui était John A. McDonald. C'est pas tout le monde qui comprend non plus ce mouvement de réappropriation de l'espace public et la tendance de plus en plus à déboulonner les mythes du passé. L'histoire est telle que on peut en dire beaucoup de choses. Et l'histoire a toujours deux espèces de faces. Hein? Et il y a des grands débats là-dessus. La preuve, c'est que Gilles Laporte peut nous en parler beaucoup des débats historiques, puisqu'il est historien. Bonjour, Gilles.
Bonjour.
Historien, professeur au Cégep du Vieux-Montréal. Jean-Pierre Charbonneau, ex-député du Parti québécois, qui a été également président de l'Assemblée nationale. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour Isabelle.
Je vais commencer par Gilles, vous me permettrez. Pourquoi avoir de jeter à terre comme ça, déboulonner, mais plus que ça, on a carrément fait tomber la tête du premier ministre du Canada. Comment s'expliquer que ça arrive là en ce moment, Gilles?
Oh, écoutez, on le sait tous, là, c'est un personnage éminent, central dans l'histoire du Canada et du Québec. Ça va de soi. Il était retenu comme tel. Pourquoi sert-il, dirais, de paratonnerre? Un paratonnerre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui attire la foudre sur lui. Bien sûr qu'il est le reflet d'une époque victorienne, raciste, impérialiste, moraliste. Mais pourquoi lui en particulier? Ben, on retient deux grands faits d'armes, pourrions-nous dire. Le premier, c'est une politique d'assimilation, puis de carrément de génocide culturel envers les Premières Nations, notamment dans l'Ouest canadien. On pense en particulier à la condamnation de Louis Riel, pendu en 1885. Et l'autre grand motif, c'est parce qu'il a mis sur pied la mal nommée loi des sauvages dans les années 1870, qui condamnait les Premières Nations au statut de citoyens de seconde zone dans les réserves. Alors, autour de ce que la plupart de ceux qui ont mis à bas la statue de John A. McDonald, là, ont pas des connaissances historiques très approfondies. Mais autour de ces deux motifs-là, les politiques génocidaires dans l'Ouest et la loi des sauvages, on a tiré prétexte, selon moi, pour en faire le Satan incarné.
Oui. Jean-Pierre Charbonneau?
Ben, je suis d'accord avec M. Laporte. Et je pense que, finalement, on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais ce qu'on peut faire, par ailleurs, c'est d'utiliser des personnages qui... n'était peut-être pas controversé à l'époque, mais en fait, quand on y pense, à l'époque de Louis Riel, tout ça, il y a eu des grandes manifestations à Montréal de colère des citoyens qui en voulaient justement au gouvernement de McDonald d'avoir fait pendre Louis Riel et de l'avoir poursuivi. Alors, dans le fond, là, ce qui nous manque actuellement, c'est une espèce de recadrage pour permettre que des statues ou des monuments puissent servir de réflexion. C'est pas tellement en les abattant, en les faisant disparaître, qu'on va nécessairement mieux enseigner l'histoire. Au contraire, on devrait les utiliser pour faire en sorte que les citoyens comprennent qui était McDonald. Il était le premier ministre, le premier premier ministre du Canada, il a été un de ceux qui l'a conçu, qui nous a un peu mis dans le trouble parce que finalement, il a pas fait exactement ce qu'on aurait, nous, espéré au Québec. Mais au-delà de ça, il y a une face ombre, il y a une face lumière. On a mis beaucoup en évidence dans l'histoire la face lumineuse de McDonald's, mais on a moins mis en évidence la face sombre. Et d'une certaine façon, en mettant ça en perspective aujourd'hui, ben ça peut nous permettre justement de faire d'enseigner l'histoire, puis de la faire comprendre, puis de tirer des leçons pour aujourd'hui, parce que justement, si on veut plus avoir les comportements que McDonald's et son époque, là, il n'était pas le seul raciste, là, et impérialiste et aristocrate prétendant, snob et méprisant. C'était un peu la suite de bien des gens de la classe dirigeante d'ici, en Europe, etc. Alors, mais si on veut utiliser ça comme une espèce de leçon de comment on doit se comporter aujourd'hui avec plus d'humanisme, plus de reconnaissance des uns et des autres, ben, je pense que là, on peut faire œuvre utile.
C'est pour ça que c'est intéressant de mettre en contexte et de mettre en contexte historique, mais aussi de lire sur notre histoire. Parce que quand on lit sur John A. McDonald, par exemple, on comprend que lui était carrément omnibulé par la construction du chemin de fer canadien-pacifique. Pour lui, c'était son projet numéro un. Peut-être Gilles là-dessus.
Il y a eu des affaires de corruption à son époque.
Pour lui, Gilles, le fait que c'était le chemin de fer du CP d'un bord en bord du pays, que ça passait avant tout, on comprend un peu plus, ça le justifie pas, là. Mais on comprend le fait qu'il ait voulu contrôler les Autochtones qui avaient les terres, entre autres.
Mais bien sûr, c'est d'abord un homme de l'Empire britannique. Au milieu des années 1800, l'Empire britannique rayonne partout en Afrique du Sud, en Australie, dans les Caraïbes, et partout les Premières Nations sont opprimées et puis doivent se faire la place. Le grand chemin de fer, le rêve de John A. McDonald, imaginez un chemin de fer d'un océan à l'autre, parce que dans son rêve, c'était relier la Grande-Bretagne avec l'Australie. Là. Mm-hmm. C'était une vision mondiale que l'Empire britannique. Les Premières Nations font des ordres là-dedans. Ils doivent au mieux s'assimiler. Au pire, on doit s'en débarrasser. Il y a un grand bulldozer culturel à ce moment-là qui est en place. John A. McDonald est le pion de l'Empire britannique en Amérique du Nord. Il doit à la fois faire face aux Premières Nations, mais aussi aux États-Unis, au Sud, là, qui menacent même de contrôler tout le continent à l'époque. Fait qu'il est un agent de l'Empire britannique.
Et en mais c'est un Écossais, non? Il est né en Écosse.
Absolument, il est né en Écosse, qui est arrivé très... D'ailleurs, une de ses citations les plus célèbres, c'est « Je suis né sujet britannique et je mourrai sujet britannique ». Ça fait quand même drôle pour le père de l'indépendance du Canada, là, mais il s'est toujours d'abord et avant tout comporté comme un anglo-saxon britannique, membre de l'Empire. C'est à la grandeur de l'Empire britannique pour lequel il se bat.
D'ailleurs, son
époque est engagée là-dedans.
Oui, Jean-Pierre.
C'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal de voir un Écossais qui finalement est plus anglais que les Anglais. Là.
Oui, exactement.
Oui, et d'une certaine façon, si on veut faire disparaître McDonald's, ben il faudrait faire disparaître, quelques siècles de tu sais, je prenais un autre exemple qui est encore peut-être plus choquant dans l'attitude. C'est Amherst, qui était le général, qui a utilisé finalement des couvertures contaminées pour contaminer justement les Autochtones et pour les faire disparaître. C'est clair qu'il y a une espèce de gradation, c'est-à-dire ça, c'est encore plus choquant aujourd'hui quand on sait ça que le comportement McDonald's. Mais en même temps, pour d'autres, le comportement de McDonald's peut être très répréhensible. Puis là, on rentre pas dans les histoires de corruption autour du gouvernement de McDonald's puis de sa clique, là. Mais tout ça pour dire que est-ce que on sent l'histoire puis la compréhension si on fait tout disparaître ça?
On est bien d'accord. Devrions-nous effacer le camp d'Auschwitz pour ne pas offenser les survivants juifs? Devrions-nous effacer jusqu'au sol les traces du mur de Berlin pour ne respecter les victimes du communisme? Non, au contraire. C'est en particulier dans leur valeur exemplaire que ces monuments, ces traces du passé, nous rappellent des éléments et qui ils sont d'autant plus vivants, infamants, puis ils portent un message dans la mesure où on les laisse là. De la même manière qu'on laisse la colonne Nelson dans Vieux-Montréal, qui est un outrage passage aux Canadiens-Français, mais elle est toujours là. Elle nous rappelle, je me souviens de ces traces de l'oppression du passé. Ce rapport hygiéniste, le nettoyer l'espace public pour en faire un safe space, c'est carrément effacer l'histoire. C'est pour ça que vous allez avoir des historiens qui sont offensés, pas parce qu'ils aiment Johnny McDonald ou parce qu'ils veulent absolument préserver les traces du passé, c'est parce que l'histoire, elle s'écrit aussi par les monuments. Et pas simplement pour rendre hommage à ces gens-là. On ne rend pas hommage à Auschwitz, on ne rend pas hommage au mur de Berlin. En revanche, leur présence seule montre leur valeur exemplaire, leur valeur édifiante, et nous sont une très grande leçon du passé. Peut-on encore avoir la devise « Je me souviens » si on fait de l'espace public un lieu aseptisé, exempt de toute forme d'oppression du passé?
Oui. Mais là, tu parles des traces du passé. Tu parles d'Auschwitz, tu parles des lieux du passé, des vestiges du passé. Là, les archéologues vont vouloir réagir sans doute ici parce qu'ils vont dire, attendez, c'est aussi un témoin de notre histoire. Après, la statue, que veut dire une statue? Une statue, est-ce que c'est quand même pas un hommage certain à un personnage?
Il y a peut-être des statues, Isabelle, qui peuvent rester là où elles sont. Moi, je pense qu'on peut trouver que Churchill avait aussi des attitudes un peu impérialistes, assez racistes à certains égards, mais reste que son parcours mérite que dans le vieux Québec, il y ait sa statue. C'est la même chose pour d'autres. À l'inverse, je pense que Amherst, avec ce qu'on a dit tantôt, donc, il y a peut-être une évaluation, mais...
Il y a une nuance. Vous revenez, M. Charbonneau, sur Amherst. Il y a eu un vote démocratique pris par le conseil municipal. À ce moment-là, les élus ont assumé leur rôle. De la même manière, on peut même le crucifix à l'Assemblée nationale, on en a beaucoup débattu, on en avait marre, mais la décision, tout compte fait, a installé une certaine paix sociale sur cet enjeu, parce que ça a été un vote démocratique. Faisons le débat serein en amont, plutôt que de laisser des vandales nous placer ce matin devant des choix. Là. Il est clair que...
Oui, un à la fois, s'il vous plaît. Oui, on termine Gilles, puis ensuite Jean-Pierre.
Il est clair qu'il y a une immense nuance. Oui, bien sûr, il faut faire du ménage dans notre rapport à la mémoire puis au passé. Ça va sans dire. Ce rapport-là, il doit être fait démocratiquement, idéalement, puis surtout sereinement. Allons-nous laisser des ignares exaltés prendre les décisions à notre place? C'est clair que... Voilà. Ouais. Je pense que c'était
Jean-Pierre, j'aime bien ignare exalté, j'aime bien Jean-Pierre Charbonneau.
Alors, parfois, je suis exalté. Je pense que je suis très ignare. Mais je crois aussi qu'hier, il y avait une espèce de confusion. Là. C'est-à-dire, c'était une manif pour demander que le budget de la police soit réduit, puis finalement, on s'attaque à la statue de McDonald's. Où elle est la cohérence?
Oui, on était un peu mêlés dans les interventions. Là. Ouais.
Oui, c'est ça. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, si tu veux passer un message, ben, tu n'en passes pas quatre, puis tu fais pas des choses qui sont contradictoires. Mais ce qu'il fallait reviser...
Oui, on va y venir après la pause. Nos lignes sont pleines, donc on va donner la parole à nos auditeurs. Une chose est sûre, c'est que là, si on se met à faire du révisionnisme historique, on n'a pas fini. Il y en a même, il y a un courant là, qui, depuis une couple d'années, veut même déboulonner, puis c'est pas un personnage politique, c'est un personnage hollywoodien, mais John Wayne... serait devenu la cible depuis quelque temps de tous ceux qui sont justement qui l'accusent d'avoir été un suprémaciste. Puis John Wayne, espèce de dernier héros américain, blanc, hétérosexuel, hyper macho, je rajouterais, qu'on veut déboulonner carrément aussi, qu'on ne veut plus voir aucune, dont on veut plus voir aucune trace non plus dans l'histoire cinématographique. C'est assez quand même incroyable. Je veux dire, c'est un acteur de cinéma. Est-ce qu'il véhiculait aussi cette espèce de discours suprémaciste? On a dit beaucoup de choses. Vous savez, il y en a qui disent aussi que tous les grands auteurs... Prenons Voltaire. Il y a tout un débat, entre autres en France, pour dire que Voltaire devrait plus exister, devrait plus être enseigné, parce que c'était un antisémite. Il y a vraiment tout ce courant. Et puis, à terme... Il va rester qui, là? Vers qui va-t-on pouvoir se tourner une fois qu'on aura nettoyé tout ça? Je veux vous entendre là-dessus. 514-790-9850 de l'extérieur, partout au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. Alors, que fait-on avec toutes ces statues qui représentent des personnages politiques, historiques, littéraires à la rigueur? Il y a un grand mouvement de réappropriation de l'espace public qui vise aussi à faire un certain nettoyage de tous ces personnages dont certains sont assez sombres et représentent une période sombre surtout de l'histoire, en tout cas aujourd'hui jugée telle quelle. Est-ce qu'on doit ramener le dernier exemple en liste? C'est bien sûr Johnny McDonald dont la tête a roulé en fin de semaine dans le cadre d'une manif. Est-ce qu'on doit ramener sa statue à Montréal? Mathieu, vous en pensez quoi, vous? Bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai juste quelques points à amener. C'est que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde, pareil, à la manifestation. C'est une minorité, là, peut-être 100-200 personnes. Mm-hmm. Il y avait de la police en masse, puis on les a laissés faire. Il fallait débolter des bolts, fallait l'attacher, la tirer. Donc, la police, c'est sûr qu'il y a eu ordre d'en haut de laisser ça passer. Ouais. On sait qu'il y a des groupes comme en arrière d'Antifa, puis Black Lives Matter, c'est des groupes avec de l'argent comme Soros, puis des hauts placés. Là. Fait que c'est sanctionné en quelque part, ça se laisse faire.
Alors que...
C'est une minorité. Fait que d'accord ou pas, là, mm-hmm. faut appliquer la loi. Et où la loi?
Mm-hmm. Alors qu'à Hochelaga-Maisonneuve, il y a eu plusieurs centaines de gens qui voulaient faire le party. Ça n'a pas été long que la police est intervenue. Personne n'a été arrêté, mais est quand même venu leur dire « OK, tout le monde se disperse à Hochelaga-Maisonneuve. »
Oui. Donc, oui, exactement. J'aurais quelque chose d'autre à dire. Puis oui, là, on s'attaque à McDonald's, on s'attaque à ci, à ça. Mais la vraie chose, dans le fond, là, c'est que ça finira plus, cette affaire-là. Mm-hmm. C'est une attaque contre la race blanche.
Mm-hmm. Merci.
Tout ce qui est blanc, on s'attaque.
Merci beaucoup, Mathieu. Jean, bonjour. Jean, êtes-vous là? Oui, on va parler au... Jean, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, on vous écoute, Jean, c'est à votre tour.
Bon, moi, je pense qu'on devrait rapporter la statue de McDonald's pour une raison. Votre animateur, tantôt, Gilles, l'a très bien dit. OK, je pense qu'on devrait se souvenir des choses qui s'est passées. Mm-hmm. OK. C'est drôle, hein? Je dirais à ces gens-là de s'asseoir dans une machine à reculer le temps, puis de reculer jusqu'au 18e, 19e siècle. Peut-être qu'ils ne penseraient pas la même chose. Puis il y a des livres à l'université, justement, ils appellent ça des l'évolution de la race humaine. Écoutez, dans ce temps-là, c'était comme ça. Mm-hmm. Moi, je suis pas d'accord avec ce que McDonald's a fait, là. Je suis pas d'accord. Je vais faire une analogie. OK, j'écoutais une émission d'un documentaire sur Picasso. Mm-hmm. Imaginez-vous donc, là, si des féministes décident demain matin, certains groupes décident de dire, bon, mais là, Picasso, t'es pas correct. Picasso, il aimait les femmes. Mm-hmm. OK, alors, faut tout détruire ses toiles. Alors, tu sais, il faut arrêter, là. Mm-hmm.
Mais c'est correct d'aimer les femmes, faut juste s'assurer qu'elles soient consentantes.
C'est ça aujourd'hui. Oui, excusez-moi.
Merci, merci beaucoup. Donald est avec nous. Bonjour, Donald.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, on vous écoute là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec les statues et celle de John A. McDonald? Est-ce que la mairesse de Montréal devrait la ramener?
Moi, je crois que, mettons, si les citoyens veulent pas les voir de près, moi, je dis qu'on devrait acheter un terrain en ville, là, mm-hmm. puis toutes les mettre dessus. Pareil comme un cimetière, fait que le monde, il irait voir là, ceux qui veulent les voir. Toutes les mettre ensemble. Moi, je trouve que ça ferait une belle attraction. Moi, le premier, je pense que j'irais toutes les voir.
Ah, mon Dieu! Hey, savez-vous quoi? C'est une idée. C'est une idée. Pourquoi pas?
Regardez, Mme Maréchal, si, mettons, à la fin de 21, on fait une statue de M. Arruda, Mme M. Legault, Mme McCain, Mme Plante, mm-hmm. C'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir les déboulonner. Il n'y a personne de parfait dans la vie. Ils vont leur trouver quoi.
Vous voulez dire qu'il n'y a personne qui fait l'unanimité, mais il y a quand même des personnages qui, aujourd'hui, à la lumière de ce siècle dans lequel on vit, aujourd'hui, ouais. certaines idées ne tiennent plus la route, là. C'est clair.
C'est sûr, mais c'est juste parce aussi qu'ils veulent paraître dans les journaux, faire des médias, puis tu sais, je pense qu'on a beaucoup de temps à perdre, là. Commencez à déboulonner.
Fait que là, on la ramène pour vous, Donald, oui? On la ramène?
Oui, oui. Tantôt, okay. ça va être des bâtiments qui ont un nom, tantôt, ça va être des écoles qui ont un nom, qui ne font pas leurs affaires. Ouais. On va s'arrêter où?
Merci. Lucie, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je pense qu'on devrait la remettre, mm-hmm. parce que le message que moi j'entends, c'est « on existe ». Et puis, il faut s'occuper de la cause autochtone. Moi, je la suis depuis longtemps. Mm-hmm. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce qui se passe avec les Autochtones. Mm-hmm. Je le sais je le sais que ça fait longtemps que les commissaires, là, les commissariats, là, ça fait longtemps qu'on sait toutes ces choses-là, mais c'est toujours, le problème, c'est toujours des appliqués. Mm-hmm. Et puis, en plus, à côté de McDonald's, moi, je mettrais Louis Riel pendu.
Pendu?
Ben oui, c'est ça qu'il a fait.
Oui, mais c'est une image un peu forte, là.
Ben, c'est vrai, mais l'histoire. C'est notre histoire. On ne connaît pas notre histoire au Canada.
Qu'on mette une statue Louis Riel, d'accord, mais pas pendue, là.
Parce que, ils ne l'avaient pas pendu?
Oui, ils l'ont pendu, mais on n'est pas obligé de mettre la statue quand il est pendu. Comprenez? Moi, je pense à tous ceux qui ont des fois cette idée-là en tête. Là. Je trouve que je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Merci, merci beaucoup, Lucie. Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour. En fait, non, on la ramène pas, on l'envoie dans un musée, là. Ça appartient dans ces endroits-là.
Ouais.
Alors, si les gens là, veulent justement voir là, qu'est-ce qu'il y en a, ben ils iront dans des musées. Ouais. J'avais un petit point aussi, c'est faut comprendre que dans les années 1865, les États-Unis étaient à cibler le Canada comme étant une annexation, là.
Mm-hmm.
Fait que lui, il a créé un mouvement là, de confédération qui a empêché ça, là. Fait que sinon, on aurait été américain aujourd'hui.
Ah non, il n'y a pas que des choses négatives dans la carrière de John Paul McDonald. Là. C'est sûr.
Mais
que,
non, exactement.
Et on parle beaucoup des Autochtones, mais je veux dire, si vous êtes d'origine chinoise, là, dans les années 1880, on dit qu'il y a à peu près 15 000 ouvriers chinois qui ont travaillé sur son fameux chemin de fer. Je vous dis le chemin de fer, là. Il était tellement omnibulé par ça, là, John McDonald. Les Autochtones sont passés là-dedans, les Chinois qui ont travaillé là-dessus, ils ont travaillé dans des conditions tellement difficiles, ils étaient à peu près pas payés. Le gouvernement canadien voulait les contrôler complètement. Pourquoi? Parce que John M. McDonald voulait qu'il finisse son maudit train. Puis à un moment donné, ça devient ça, là. Il y a des personnages politiques qui ont ils font une fixation sur quelque chose, puis tout le reste est occulté. Je me tourne vers mes invités là-dessus. Gilles Laporte, historien, justement, sur cette page de l'histoire, là, parce qu'il y a des gens qui vont dire... Ils sont pas que troubles, ces personnages-là. Il y a des pans de l'histoire de McDonald's. Mais je pense qu'on sous-estime l'impact de son projet de chemin de fer dans ses décisions politiques.
Et sa politique impériale, là, la question exact, autochtone, hein. C'est il n'est pas mu que par le pur racisme. Là. Il sait que les Autochtones, notamment les Métis, ont des liens avec leurs frères, pourrions dire, des États-Unis. Ça fait partie aussi de la politique effective de l'occupation du territoire. Bien sûr, c'est plus complexe, puis Dieu sait que je ne veux pas l'excuser. Et tout ça doit être mis là dans le contexte de l'époque. Votre auditeur a tout à fait raison d'évoquer le contexte de la guerre civile. Les États-Unis, ouais. À ce moment-là, sont en train de... Il y a 1,5 million de morts là, durant cette guerre civile-là. L'Amérique du Nord est à feu et à sang pendant ce temps-là et il a créé un État britannique au nord des États-Unis. C'est pas simple. Quant à sortir mettre les statues dans un musée, il faut rappeler à quoi ça sert un monument, à quoi ça sert une statue.
OK,
une
à quoi statue, ça sert justement?
Ça sert à montrer ce qui nous lie, ce qui nous soude, ce qui nous représente. Et ça ne fait jamais l'unanimité, on est d'accord. Même la statue de John McDonald, lorsqu'elle a été édifiée, avait été contestée. Mais il s'agit de rappeler au public que la société, notre culture, notre, en somme, notre environnement est peuplé de lieux qui nous réunissent, qui font à tout le moins consensus. Si on se dit, ah non, ça dérange, musée, ou bien, comme on le mentionnait, cimetière de statues, l'image est forte, ça veut simplement dire qu'en somme, il n'y a rien qui nous réunit. Tout ce qui nous réunit, c'est des commerces, c'est le gouvernement, c'est une charte, c'est des lois, là, mais il n'y a pas de symbole unificateur à notre société. C'est triste. Bien sûr qu'on peut les changer, les symboles changent avec le temps. On doit les modifier, les nuancer, pour au point peut-être de mettre un homme pendu à côté d'un autre. Mais non, certainement, il y a une fichue réflexion. Si on n'est plus capable de se réunir collectivement autour de certains symboles, ben cette société-là, elle est en voie de dissolution.
Tu as parlé de Nelson et de la fameuse colonne Nelson. Ça a piqué ma curiosité. Rappelle-nous qui était Nelson, là?
C'est fascinant comme contre-exemple parce que c'est essentiellement un amiral britannique qui a combattu Napoléon. Puis comme les Britanniques soupçonnaient les Canadiens français de sympathie pour la France napoléonienne, on a érigé en 1803, avant même que ça soit érigé d'ailleurs à Londres, à Trafalgar Square, hein, notre général Nelson à Montréal est plus ancien que celui de Londres. En plein French Quarter, qu'on disait à l'époque, dans le quartier francophone, une très haute statue à l'effigie de cet amiral. Puis vous le savez, dans le Vieux-Montréal, toute la place Jacques Cartier, l'hôtel Nelson, tout est organisé autour de ce tout premier monument de Montréal. Or, c'est une boutade, c'est un pied de nez, c'est une insulte, ça, aux Canadiens français. D'ailleurs, le FLQ s'y en était pris à la colonne Nelson dans les années 1960. Mais il est là, et il est là parce qu'il rappelle ce passé colonial, il rappelle cette oppression, il rappelle, en somme, que les préoccupations et les luttes du peuple québécois s'appuient notamment sur des exemples visibles dans leur espace public. Les Autochtones devraient en prendre leçon aussi, parce que les Autochtones pourraient être les premières victimes si on fait disparaître de l'espace public toutes les traces et les souvenirs de leur oppression. Ils pourraient se retrouver avec un problème mémoriel, puis on pourrait leur dire, en somme, de quoi vous plaignez-vous? Johnny n'est plus, McDonald n'est plus là. Oui, mais notre condition à 2020 ne s'est pas améliorée. Ben, ce n'est pas en effaçant les traces historiques de votre oppression que vous, au contraire, ces traces historiques de votre oppression permettent à donner de la pertinence à votre combat dans le présent.
Mais qui se souvient de ça? T'sais, si tu vas sur le site de la ville de Montréal, au Centre d'histoire de Montréal, tu vois, là, on dit Mémoire des Montréalais, puis sous Colonne Nelson, on dit que c'est un monument à un héros de la marine. On dit vraiment, depuis 1809, cette statue-là affronte les intempéries et les critiques politiques. Pour certains Montréalais, elle symbolise en effet l'impérialisme britannique du 19e siècle. Alors, à la lumière des manifestants de samedi, je veux dire, la Colonne Nelson, c'est la prochaine affaire qui tombe.
Mais absolument.
Jean-Pierre Charbonneau, là-dessus, rapidement.
Mais ce que je pense, c'est que si on veut justement qu'il y ait un effet pédagogique au statut puis au monument,
oui,
que ce soit la colonne Lincoln ou la statue de McDonald's ou peu importe, mm-hmm, tu sais, l'Assemblée nationale, je me rappelle très bien, au début, quand René Lévesque est devenu premier ministre, il a choisi de faire sortir la statue de Maurice Duplessis puis de la mettre sur le parterre de l'Assemblée nationale. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, mais c'était pour l'évêque, une espèce de rappel d'une époque qui était révolue, mais qui avait marqué l'histoire du Québec. Si on veut...
Hey, tout le débat, Jean-Pierre, sur le crucifix à l'Assemblée nationale, je dis ça,
oui,
même à faire,
dans le fond. Mais ce qui manque, c'est près de ces monuments-là, des panneaux qui expliquent, qui contextualisent. C'est parce que les gens qui se promènent dans Vieux-Montréal, qui voient Colonne Nelson, ben, s'il n'y a rien qui explique qu'elle est, ou la même chose sur McDonald's, ou un peu ou bien des statues, mais finalement, il n'y aura pas d'effet pédagogique. Si on veut qu'il y ait un effet pédagogique et que les monuments servent à quelque chose, servent justement à se souvenir, ben il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que les gens qui se promènent puis qui tout à coup regardent la statue est aussi une explication. On n'est pas obligé d'écrire un livre sur un panneau, mais on peut, de façon très efficace, contextualiser.
OK, mais donc, on écrit quoi là, sur la plaque de Nelson, en une phrase, mettons, on écrirait
ben,
quoi?
On peut exactement écrire à peu près ce que votre autre invité, M. Laporte, le disait. C'est-à-dire, c'est un amiral anglais qui était un des personnages les plus efficaces contre Napoléon. Mais on peut aussi rappeler que l'érection de cette colonne-là à Montréal, dans ce lieu-là, avait aussi un caractère provocateur.
Je dirais pour l'anecdote que la statue n'est même plus là. Hein. C'est une copie que les gens voient dans le Vieux-Montréal. L'original est au Centre d'histoire de Montréal.
C'est ça, oui.
C'est quand même assez ironique.
Voilà.
Mais, on est tous d'accord, vertu pédagogique, nuancé par des plaques, mais faut-il encore pour cela que le monument soit toujours là? Lorsque moi je fais des visites historiques avec mes étudiants ou avec des touristes, tous les guides les font, ces nuances-là. Et on va pouvoir continuer à les faire dans la mesure où on a une trace. Pour travailler souvent avec des guides touristiques, ils me rappellent toujours comme historien, pour pouvoir illustrer, pour pouvoir dire, pour pouvoir faire parler les événements, on a besoin d'une trace physique. On s'appuie sur ces lieux-là. Des lieux, souvent d'ailleurs, champêtres, entourés de fleurs, qui ne sont pas esthétiquement inintéressants, puis sur lesquels on peut glosser, sur lesquels on peut discuter, débattre d'histoire. Mais si le lieu a été éradiqué, s'il a été effacé, tout ce qu'on a désormais, c'est de vagues discours, puis on perd notre point d'appui pour en parler davantage.
Oui, c'est malheureux. C'est ce qui arrive à de plus en plus de maisons anciennes qui datent du siècle dernier, qui mériteraient d'être conservées, puis que les promoteurs bulldozent sans que les citoyens puissent faire quelque chose. On va s'arrêter ici et on donne la parole à nos auditeurs tout de suite après. Bonjour Ali, merci de m'appeler. Je vous pose la question, est-ce qu'on doit ramener la fameuse statue décapitée de John A. McDonald à Montréal?
Non, il faudrait vraiment pas l'amener. Là. C'est pas... Si on veut mettre une autre statue pour se rappeler de l'histoire de justement tout ce qu'il a fait, ben on pourrait mettre le monde justement qui sont combattus comme une statue de Luriel ou quelque chose de même.
Mm-hmm.
Mais tu sais, on va dire, tout le temps on a changé, on va dire, c'était Leningrad au début, c'était Leningrad, là c'est rendu Saint-Pétersbourg parce que justement on l'a changé parce qu'on trouvait peut-être que ça n'avait pas de sens. Mais ici aussi, le monde se retrouve réticent au changement. Il faudrait aussi des fois changer des choses qui n'ont pas de sens au Québec.
Mm-hmm.
Et une statue de John McDonald, justement, n'a pas de sens parce qu'il a fait un génocide envers les Premières Nations. Là.
Merci beaucoup.
Donc, regardez,
merci bien. Olivier, bonjour. Olivier, on vous écoute?
Oui, je suis là. Ben, moi, je dis qu'on devrait peut-être amener celle de Chénier qui était devant le CHUM avant la construction de ce bel hôpital. Puis parlant de symboles, vous dites, Mme Maréchal, là, ça aurait été une belle opportunité d'en saisir un grand. Hein. La fondatrice de Montréal, une femme, Jeanne Mance. On aurait pu avoir un centre hospitalier avec son nom. Il n'y a pas aucun groupe de femmes qui s'est levé pour dire, hey, pourquoi que c'est prouvé historiquement, elle est fondatrice. Personne ne peut s'opposer à ça.
Tellement.
Personne peut être en désaccord avec ça. Mm-hmm. Pourquoi personne n'a dit, honorons cette femme, honorons cette grande femme?
Moi, je l'ai déjà dit, là. Puis sincèrement, quand on regarde le métro de Montréal, c'est assez pathétique. S'il y a quelque chose à faire là, vous irez voir, là.
Exactement.
Le métro de Montréal, là, la seule affaire de féminin, c'est de l'église. Puis c'est une église, hein, c'est pas une personne. Puis il y a quoi d'autre?
Ça fait dur.
Côte des Neiges. Bon, la neige, c'est féminin, mais la côte, on sait bien. Nommez-les tous, là. Crémazie, Jean Ribault, bien. C'est la ligne orange. On fait toute la ligne orange. Ça part d'Henri Bourassa là, jusqu'à du collège. Là. De la savane, c'est féminin, mais c'est pas une femme.
Légèrement méprisant.
Ben, légèrement. Est-ce qu'on peut dire que le métro de Montréal est misogyne? Il n'y a pas un maudit nom de femme dans les stations de Montréal, voyons donc.
Oui, non, c'est vrai, mais c'est un peu. C'est gros, mais c'est pas faux pourtant.
Ben, Baudry, Papineau, Frontenac, Préfontaine, Joliette, Pinneuf, Viau, Assomption, Cadillac, Langelier, Radisson, Beaubien, Rosemont, Laurier, Sherbrooke.
On vient de donner de l'ouvrage à ces groupes de femmes-là.
On le dit. Pensez-vous que ça dérange quelqu'un? Faut-tu qu'on aille saccager le métro de Montréal? Non, on le fera pas, c'est sûr.
Non, faut pas.
Ben non, c'est clair que non. Mais personne s'offusque de ça, vous avez bien raison.
Exactement. Ouais. Ben, puis un dernier point.
Là, vous m'avez fait pomper, là, Olivier.
Je m'excuse, je voulais pas, Isabelle. Mais moi, ce qui me pompe, c'est de voir que la police, effectivement, comme ça a été signé tantôt, ne fait rien. Reçoit l'ordre de ne rien faire. Moi, j'ai eu des repentances pour des gestes de vandalisme pas mal plus légers que ça dans ma vie. Puis ça me désole de voir ça aux nouvelles.
Complètement. Merci beaucoup, Guy. Bonjour.
Belle journée.
Bonjour, Isabelle. Oui, on la réinstalle. Comme on a discuté tout à l'heure, une note explicative expliquant la raison pour laquelle la statue a été premièrement installée, pourquoi elle est controversée. Les monuments, on est pris avec, mais on pense toujours qu'un monument doit demeurer fixe. On doit pouvoir les ajuster avec le temps et montrer notre progression. Oui, à un moment, on croyait à ces choses-là, mais depuis, on s'est révisé. Mm-hmm. Tout à l'heure, on parlait des Allemands, où il y a quelqu'un qui l'a mentionné.
Oui.
Les camps de concentration, c'est un des moments les plus pires de leur civilisation, mais ils en ont reconstruit certains en guise de mémorial pour se rappeler justement de cette période-là. Les étudiants sont tenus d'aller visiter en groupe, en classe, ces camps-là. C'est difficile, mais c'est important. Puis ils l'ont compris, ça. Ils font leur meilleur culpa. Il y a beaucoup de je vais utiliser guilt, de gêne, de
culpabilité.
De culpabilité, merci, le mot m'échappe. Mais ils font face. Les gens qui ignorent leur histoire sont voués à la répéter.
Ouais.
Ça a déjà été dit.
Ouais,
mais il faut comprendre, il faut s'utiliser, parce que tout à l'heure on parlait de curriculum et de pédagogie, mais c'est à ça que ça doit servir.
Ouais, tout à fait.
Faut que ça arrête, que ça soit des monuments fixes qui ne bougeront jamais.
Et c'est intéressant, merci beaucoup. On a Pierre avec nous. Bonjour Pierre.
Oui, c'est à propos du monsieur là, qui disait, celui avant moi,
oui.
Ramener la statue.
Oui.
Non.
Non, on fait
Écoutez,
pas ça.
Écoutez, moi, j'aime beaucoup lire, Isabelle. J'ai lu, naturellement, c'est une transcription en français, là, ce que McDonald a déjà dit des Canadiens français.
Qu'est-ce qu'il disait de votre
traduction? À propos de Riel, à propos de la pendaison de Riel.
Oui.
Que quand bien même que tous les chiens du Québec aboieraient, je ne changerai pas d'idée.
Ouais.
Ben, c'est pas un sous-entendu, ça.
Donc, on ne la ramène pas, là, si vous dites ça.
Ben, non. Non, parce que Louis Riel, qu'est-ce qui allait arriver dans l'avenir? Il voulait pas faire un pays, il voulait faire une province française, Louis Riel, avec ses Indiens. Voyez-vous, ça aurait été une province française.
Mais c'est un Anglais, c'est un nationaliste anglais.
Louis Riel?
Ben oui. Non, pas Louis Riel, on parle de Jean-Émile Bernard.
Non, moi je parle de Louis Riel.
Oui, oui, Oui.
Puis lui, il voulait faire une province, dans le fond. Mm. Moi, c'est ça que j'ai lu, en tout cas. Mm-hmm. Il voulait faire une province française.
Merci beaucoup, Pierre. Joe est avec nous. Bonjour, Joe.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
OK. Moi, c'est pour l'affaire là, des Noirs, là, tout ça.
C'est quoi, les Noirs, puis tout ça?
Ben, c'est parce que moi, j'ai resté aux États-Unis pendant 35 ans.
OK.
OK. Là, les importés, s'en viennent ici.
Oh, puis nous... non, non, OK, Joe, non, non, non. Moi, là, je vais pas là. Les importés, les Noirs, puis tout ça. Voyons, comment on parle? Non, non, on dit pas ça. Ça se dit pas. Voyez-vous, ça, aujourd'hui, là, ça se dit pas. C'est comme il y a des statuts qu'on ne supporte plus, mais il y a des égarements de langage qu'on ne tolère pas. Voyons donc. Mes invités là-dessus, Gilles Laporte et Jean-Pierre Charbonneau sont toujours là. Vous êtes toujours là. C'est le temps de la pause. Oui, regardez, oui. Ça, on va prendre une pause. Puis on va revenir tout de suite après. Mes invités, Gilles Laporte, historien et professeur au Cégep du Vieux-Montréal. Jean-Pierre Charbonneau, ex-député du Parti québécois, qui a été président de l'Assemblée nationale. Puisqu'on parle beaucoup de Louis Riel par opposition donc à Johnny McDonald, Gilles Laporte, est-ce qu'il y a des statues à part au Québec là, de Louis Riel, à part celle qu'il y a au Canada, donc au Manitoba, à Winnipeg, là, il y en a une.
Oui, qui est horrible, qu'il présente davantage comme malade mental, c'est terrible comme monument. Au Québec, il y a un très beau monument, très émouvant parce qu'il rend hommage à la fois à Louis Riel puis à sa grand-mère, Marianne Gaboury, qui est partie de Maskinongé à la fin du 18e siècle pour fonder ce qu'on appelle le peuple métis dans l'Ouest. C'est une très, très belle histoire. Mmh. Et ça fait l'objet d'un monument où on voit côte à côte la grand-mère, Marianne Gaboury, et son petit-fils, Louis Riel, chef du peuple métis. C'est un monument qui se trouve le long du chemin du roi, Maskinongé, d'où sont partis d'ailleurs plusieurs voyageurs qui ont fondé la francophonie de l'Ouest.
Mais il n'y en a pas à Montréal, il mériterait peut-être d'en avoir un.
Non, évidemment, Louis Riel, c'est une mémoire sulfureuse, tout comme les Patriotes. D'ailleurs, on parlait de la statue de Chénier qui n'est toujours pas réapparue, effectivement, sur la rue Saint-Denis. La mémoire des Métis de Riel demeure controversée. Imaginez, celui qu'on devrait présenter, justement, comme le dit votre auditeur, comme le véritable fondateur du Manitoba, un grand homme politique, démocrate, constitutionnaliste, est traité comme, au mieux, comme un déficient mental, au pire comme un traître. Et alors que sa mémoire devrait être beaucoup mieux restaurée et on devrait prendre la mesure de toutes ses réalisations. Mm. Et notamment d'avoir été à sa manière un des fondateurs du Canada. Vous savez, une petite anecdote, lorsqu'on a inauguré à Maskinongé ce monument à l'honneur de Louis Riel, j'ai eu un téléphone, pas des médias québécois, mais de Radio-Canada dans l'Ouest, qui s'insurgeait que les Québécois s'approprient la mémoire de Louis Riel. Vous voyez à quel point tout n'est pas simple dans cette mémoire-là, et on disait, bon, vous voulez en faire un champion francophone alors que c'est un Indien de l'Ouest. Alors, voyez, c'est pas une mémoire
aussi,
qui est simple.
C'est quasiment la réappropriation culturelle, là, ça?
Historique, il y avait de
d'une certaine façon, il y aurait un autre débat.
C'est une mémoire qui est pas simple.
Ouais.
Mais et bien sûr, restaurons la mémoire de Louis Riel. Louis Riel a étudié à Montréal. Ouais. Il s'y est même caché durant son exil. Il y a beaucoup de Québécois qui l'ont aidé dans sa fuite. Il demeure qu'effectivement, il n'y a pas
sur le cas de Johnny McDonald, là, on doit conclure, il nous reste encore quelques minutes là-dessus. Puis s'il y a des auditeurs qui veulent intervenir, vous pouvez toujours le faire. 514-790-9850 1-866-790-9850. Moi, je mettrais un gros 10$ avec sa face dessus que le cas de McDonald est loin d'être réglé, le Jean-Pierre Charbonneau.
Oui, il n'est pas réglé. Puis je pense que M. Laporte, en tout, apportait une suggestion intéressante. Il y a une responsabilité politique. Je pense qu'il y a deux choses qui doivent être faites. Il faut qu'il y ait un débat sur est-ce que oui ou non on le réinstalle, et si oui, dans quel contexte. Et ça, à la limite, ça revient aux autorités de la ville de Montréal, j'imagine, parce que le terrain et puis tout ça, c'est de juridiction municipale. C'est-à-dire qu'il y a un débat qu'on peut faire pour savoir si oui ou non. Puis ce débat-là peut être tranché par des élus qui auront à apprécier d'une façon ou d'une autre les avantages et les inconvénients de le... Mais en même temps, si jamais on ne le réinstalle pas là où il est, on n'est pas obligé de détruire la statue. Je crois qu'à quelque part, cette statue-là devra se retrouver à un autre endroit et il y aura un effet. Il y aura la nécessité, comme on disait tantôt, de faire en sorte qu'il y ait une pédagogie faite autour, à la fois de McDonald, de tous les autres personnages de l'histoire. T'sais, dans le fond, s'il fallait qu'on aille dans la direction des manifestants en fin de semaine, ben finalement, tous les livres d'histoire, on ferait disparaître la majorité des gens qu'on prétend être des héros. Un statut, c'est pas nécessairement glorifier un personnage. C'est aussi peut-être justement se rappeler que ce personnage-là a eu une influence déterminante sur des milliers, des millions de personnes
mais
à
je
une
pense
époque donnée.
Oui, mais il ne faut pas bêtement les installer, il faut les expliquer.
Ah oui, oui.
Il faut nous les expliquer, qu'on se les réapproprie, c'est-à-dire qu'on réapproprie une partie de son histoire. C'est ça l'intérêt de l'histoire, d'ailleurs. Quand je faisais une espèce de mini-blague en disant, je mets un gros 10 sur le fait que ce débat-là sur McDonald's est loin d'être fini, c'est parce qu'il est encore sur les billets de 10 piastres. Là.
On a, dans notre société, Isabelle,
qu'est-ce qu'on fait avec les billets de 10 $ là?
Oui, mais qui a la responsabilité de réfléchir au statuaire? Qui doit être honoré ou quelle mémoire doit être soulignée à travers une statue, un nom de rue, un nom d'édifice? Qui a cette responsabilité-là dans notre société?
Mais c'est une bonne question. Gilles Laporte, y a-t-il quelqu'un qui l'a? Je veux dire,
Honoré Mercier, au 19e siècle, avait créé la Commission des biens historiques. Il avait d'ailleurs, si vous regardez la plupart de nos statues au Québec, ouais, elles sont très anciennes. La plupart datent entre 1910 et 1930, là, celles qu'on a pu préserver.
On en fait monument, plus aujourd'hui,
tu veux dire? Ouais. En passant par le monument aux fondateurs de Montréal. Et ouais, c'est symptomatique. Il y a eu une frénésie commémorative à une époque où le peuple québécois voulait absolument garder contact avec ses racines. Puis depuis 50 ans, convenez avec moi que les statues disparaissent de l'espace public. On en ajoute peu et puis celles qui sont détériorées ne sont pas remplacées. Symptôme d'une société qui cherche les repères qui l'unissent, qui font en sorte qu'on trouve encore des valeurs exemplaires autour de certains personnages. Mais M. Charbonneau a parfaitement raison. Une statue ne vise pas nécessairement à glorifier. Comme par exemple, dans le Vieux-Québec, il y a un monument en hommage aux victimes de la tuerie de Pâques 1918. L'armée canadienne a tiré sur des manifestants. À qui rend-on hommage? Certainement pas aux valeureux soldats canadiens qui ont tiré sur les Québécois qui s'opposaient à la conscription. Mm-hmm. Mais de tels monuments qui parlent de martyrs, peuvent parler, mais dans la mesure où ils sont là. Et il y a un discours à développer sur Johnny McDonald, Place du Canada, tout comme à propos de la colonne Nelson dans le Vieux-Montréal. Et pour ça, il faut accepter un premier temps, avant de faire de la pédagogie, avant même de rédiger la fameuse phrase qu'on va mettre, là, il faut assumer une présence dans le passé. Il faut assumer que ces traces-là demeurent dans notre espace public parce qu'ils sont un rappel de luttes qui ont été menées, soit par les Autochtones, soit par les orangistes, peu importe. Cet héritage-là, il va évoluer. On va l'évaluer différemment d'une époque à l'autre. Mais ces traces-là, du seul fait de leur présence, sont un rappel de débats qui nous divisent, ouais, mais de facteurs qui nous unissent.
Mais Jean-Pierre pose la question aussi, puis c'est vrai. Puis tu rappelais, Gilles, qu'il y avait cette commission là, qui était chargée un peu de regarder qui mérite quoi. En même temps, aujourd'hui, puis la preuve, c'est que les historiens ne s'entendent pas tous sur la façon d'enseigner l'histoire. C'est un grand débat au Québec entre les nationalistes, les fédéralistes. Si tu vas dans une école d'anglophone, tu ne vas pas apprendre la même chose que si tu es dans une école francophone, là. Donc, c'est pas évident. Si on avait un comité à faire aujourd'hui, à créer, qui serait dessus? Qui serait habilité à prendre la bonne décision pour le plus grand nombre? Ça ne serait pas évident, là.
Tout ça existe. Il faut une politique de commémoration. Ça a l'air encore de la bureaucratie et tout ça, j'entends. Mais il demeure qu'une chose, c'est qu'il n'y a rien. À l'heure actuelle, c'est le ministère des Affaires culturelles qui doit décider sur le coin d'une table si on nomme une rue en l'honneur de Robert Bourassa ou si on renomme le pont Samuel de Champlain. Il n'y a pas un véritable lieu où un commissaire, écoutez, c'est une personne avec qui se dote d'une équipe et cette équipe-là, irréprochable, elle doit évaluer ce genre de choses-là. Parce qu'il n'y a pas que les statues, vous l'avez mentionné.
Ouais.
Il y a également les maisons historiques, comme la maison Boileau à Chambly.
Ouais.
Il y a les fêtes aussi. Hein? Il y a une fête pour les patriotes, mais il n'y en a pas pour les femmes. La fête du 1er mai. Tout ça souffre d'un grand désordre, d'une grande dispersion. Il y a beaucoup de manque de courage parmi nos élus.
Mmh.
Et il y a généralement aussi l'indifférence du public, en général, fait bien l'affaire de certains.
Voilà.
On va finir par passer
Jean-Pierre Charbonneau, très rapidement. Merci beaucoup, Gilles Laporte. Jean-Pierre, le mot de la fin.
Je voulais juste ajouter qu'il y a aussi une utilisation partisane et politique par les gouvernements quand on nomme certains édifices, certaines routes, certaines autoroutes, certains ponts. Alors là aussi, comme il n'y a pas de critères objectifs, comme il n'y a pas un organisme qui a la responsabilité de conseiller à la fois les dirigeants, mais le public également.
C'est des manifestants qui le font. Voilà. Merci beaucoup. On doit se laisser ici. Merci beaucoup, Jean-Pierre Charbonneau, ex-député du Parti québécois, président de l'Assemblée nationale. Gilles Laporte est historien. C'est un beau débat qu'on aura l'occasion d'ailleurs de refaire. À tout de suite, tout le monde, après les nouvelles.